Radio Okapi. Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Tati Mampoukou.
Okapi.
Nous voici dans la seconde partie du magazine Okapi Service. Quelles sont les dispositions que la République démocratique du Congo doit prendre pour minimiser l'impact des effets liés au dérèglement climatique? Nous en parlons avec le professeur Albert Kabasele Yenga Yenga. Il est directeur de l'école doctorale de télécommunications et télédétection spatiale de l'Université pédagogique nationale. Bonjour professeur et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour Tati, merci beaucoup de m'avoir invité.
Chers auditeurs et auditrices, si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Par SMS, envoyez vos questions, commentaires et témoignages au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires de Zachary Chibamba de Kananga. Selon cet internaute, l'État doit créer une institution, une entité pouvant donner des orientations précises au peuple congolais pour la bonne gestion et la protection des forêts, des ressources hydrologiques et éviter une énorme pollution de l'environnement. Nous entendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui anime et coordonne ce numéro sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Debs Vita réalise et assure la prise de son de ces rendez-vous. Paul Badianyama est à l'édition multimédia. Toute l'équipe vous souhaite une bonne condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Quelles sont les dispositions que doit prendre la République démocratique du Congo pour minimiser l'impact des effets liés au dérèglement climatique? Nous en parlons avec le professeur Albert Kabasele Yenga Yenga. Nous rappelons qu'il est le directeur de l'école doctorale de télécommunications et télédétection spatiale de l'Université pédagogique nationale. Si ce thème vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler pour remonter vos témoignages et avancer vos idées au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Le dérèglement climatique est une réalité présente en République démocratique du Congo avec des conséquences néfastes sur la population, la santé et l'environnement. Les changements climatiques tels que l'augmentation des températures, les inondations, les sécheresses et les événements météorologiques extrêmes, d'ailleurs en pleine saison sèche, il a plu il y a 2 ou 3 semaines, exacerbent les vulnérabilités des communautés locales, aggravant notamment la pauvreté, les déplacements de population à la quête du pâturage dans la partie orientale, par exemple les Mororo qui viennent du côté de l'Afrique de l'Est et qui viennent s'installer en République démocratique du Congo et engendrent parfois des conflits entre les communautés locales et ces éleveurs de gros bétail. Quelles sont les dispositions que la République démocratique du Congo doit prendre pour minimiser l'impact des effets liés au dérèglement climatique? Nous abordons ces sujets avec notre invité. Professeur, c'est une réalité, on est en pleine période du dérèglement climatique.
Oui, Tati, vous devez savoir que les États du monde entier, les États des Nations Unies, dans leur ensemble, se préparent à ce que l'on appelle le géorisque climat. Le géorisque climat est un nouveau concept qui veut dire que on doit s'adapter aux représailles du réchauffement climatique. Et pour s'adapter aux représailles du réchauffement climatique, il faut se préparer, un, pour observer ces représailles venir.
Il faut anticiper.
Anticiper, prévenir. Et parce que ces représailles sont d'une force catastrophique et au-delà de ce que l'homme peut imaginer, ces catastrophes peuvent emporter des bâtiments, même de 12, 13 étages, quelle que soit leur fondation. Ces représailles peuvent sécher des fleuves, des cours d'eau. Ces représailles peuvent provoquer des cataclysmes agricoles. Ces représailles peuvent couper les routes. Ces représailles peuvent
causer des inondations,
provoquer des inondations et vider la nappe et faire effondrer des bâtiments avec des fissures, faire dérailler le train parce que ces représailles font que les métaux se dilatent, donc les rails des trains déraillent facilement. Ces représailles peuvent faire fondre les câbles électriques et provoquer des incendies de type électricité dans les bâtiments et sur les voies de transport moyenne haute tension. Ces représailles peuvent provoquer des AVC, des avortements non désirés. Ces représailles sont responsables de beaucoup de morts aux urgences pendant les périodes caniculaires. Ces représailles peuvent donner des maladies diarrhéiques comme le choléra, le paludisme. Et ces représailles peuvent engendrer des virus qui n'existaient plus ou les faire ressurgir. Ces représailles peuvent faire de sorte que il y ait des attentats contre l'horloge biologique, c'est-à-dire le dysfonctionnement
de l'organisme.
Et donc c'est très important. Et ces représailles peuvent provoquer l'équilibre, les déséquilibres des sexes. Donc chez les plantes, on assiste à une masculinisation des plantes. Donc dans les fleurs, les grains de pollen, il n'y a pas vraiment fécondation. On a la plante qui devient de plus en plus masculine, pauvre en fruits.
Alors
chez l'homme, ça provoque la féminisation de la population. Donc les testicules de l'homme ne supportent plus de chaleur, les Y meurent et les hommes fécondent plus leurs épouses avec les X. Et il y a l'explosion du sexe féminin,
la mutation génétique
au détriment du sexe masculin. Ainsi de suite. La mutation génétique, ce n'est pas encore établi. Et c'est en étude. On est en train de penser que il n'y a que le rayonnement nucléaire qui provoque la mutation génétique. Jusque-là, le réchauffement climatique n'est pas encore accusé de mutation génétique. Et voilà.
Et pour l'État,
le réchauffement climatique provoque ce qu'on appelle les déséquilibres hormonaux. Il y a l'utilisation de pesticides pour pouvoir surmonter maintenant la crise alimentaire, ce qu'on appelle
les OGM,
les ripostes, et ça engendre maintenant d'autres problèmes. Croyant résoudre un problème, on crée un autre. Voilà les enjeux qui nous attendent. Aucun budget national ne pourra résister au réchauffement climatique, à ses représailles. Aucun État du monde n'aura un budget capable de faire face à ce qu'on appelle le représailles climatique. C'est plus qu'une bombe atomique.
Et si on revient sur l'état de la RDC, nous sommes le deuxième poumon mondial, comme on le dit par les scientifiques. Est-ce que nous également, nous sommes exposés à ces phénomènes du dérèglement climatique. Est-ce qu'il y a des signes qui ne trompent pas, professeur, qu'on est en pleine période du dérèglement climatique, parlant spécialement de la République démocratique du Congo?
D'après le rapport du GIEC aux Nations Unies, à Bonn, en Allemagne, INFCCC, la RDC fait partie des pays les plus vulnérables aux représailles climatiques. La RDC, c'est le pays africain le plus
vulnérable, le plus exposé aux effets.
Pourquoi? Parce que la forêt dense ne résiste pas au stress
climatique.
Donc la forêt, dès qu'elle est frappée par des canicules, elle pose des problèmes. Donc la forêt, c'est déjà la vulnérabilité elle-même. Le sol de la RDC, dans sa majorité, sur le plan pédologique, c'est un sol sableux, limoné sableux. Donc il est exposé aux érosions facilement. Il est très érosif, très très érosif. Et la plupart des villes congolaises sont sur des têtes, des crêtes de collines. Et la RDC n'a pas d'énergie propre ou des énergies évoluées pour pouvoir résister à l'énergie bois. Donc la RDC dépend à 80% du bois énergie, pour préparer, pour se réchauffer, ainsi de suite. Et de ce fait, les forêts sont encore donc la cible de la population. Donc la RDC a une population qui vit dans la promiscuité, qui augmente les effets des microclimats et qui, ces effets exacerbent le réchauffement climatique par albédo, par pollution des déchets non traités, ainsi de suite. Donc la RDC a un système de santé qui n'est pas préparé pour faire face aux représailles du climat. Vous voyez vous-même déjà, en pleine ville de Kinshasa, explose la diarrhée qu'on appelle le choléra.
Les choléras. Donc, et le choléra a tendance à se généraliser à travers les pays.
Exactement, parce que tout part de Kinshasa, le poisson pourrit par la tête. Donc vous voyez vous-même qu'en ce moment où l'OMS est au top, et en ce moment, en pleine ville de Kinshasa, le choléra éclate après les inondations du mois de juin passé. Donc ça vous montre le degré de vulnérabilité de notre pays. Et la RDC est un pays à 80% urbano-rural, où les gens vivent de l'agriculture.
Sur les brûlis itinérantes.
Les gens vivent des ramassages, de la cueillette. Ils ramassent les champignons, les fruits et légumes dans la forêt, ils vont vendre. Et avec le réchauffement climatique,
Ces ressources-là se raréfient.
Ça paupérise la population. On n'a pas de makelele qu'on avait. On n'a pas les mangues qu'on avait, les mangues sauvages.
On n'a pas les matongues qu'on avait.
On n'a pas de chenilles qu'on avait. Et on devient de plus en plus pauvre et ça exacerbe l'exode rural. Donc les villages n'ont rien, alors ils quittent les villages tous, ils viennent en ville. Et voilà le problème. La RDC est exposée sur le plan sanitaire aux perturbations endocriniennes. C'est-à-dire, l'horloge biologique des Congolais est en train d'être modifiée. Donc, les gens n'ont pas sommeil, mais ils trouvent ça normal.
Les gens, ils dorment mal.
Les gens, oui, ils trouvent ça normal.
Parce qu'il fait parfois très chaud.
Il fait très chaud. Et les gens, des fois, n'ont pas faim quand il faut avoir faim. Les gens ont beaucoup de problèmes de santé dus au climat, mais il n'y a pas de spécialistes en santé publique pour cibler ces problèmes et les traiter. Et quand vous regardez la population congolaise, il y a beaucoup de fous sur la route. Beaucoup de gens ont dû joncter, ainsi de suite. Donc, je vous ai parlé des déséquilibres entre les sexes. On a de plus en plus de filles que des garçons. C'est en partie dû au génotype, au phénomène génotype, mais c'est en partie aussi dû au climat. Je vous ai parlé des testicules de l'homme qui ne résistent pas
au réchauffement. Et là, d'ailleurs, j'appelle les Congolais à porter de plus en plus, les hommes, à porter des slips qui ne sont pas trop serrés et qui ne sont pas en nylon. Donc, ainsi de suite. Tout ça, c'est pour atténuer le réchauffement des testicules et ne pas détruire plus des Y. Pour la plupart des familles, c'est 8 filles, un garçon, 4 filles, un garçon, 6 filles, un garçon. Et vous pensez que c'est normal? C'est en partie lié au
choc. Ou pas de fécondité.
Oui, oui, oui. Ainsi de suite. Et il y a beaucoup de perturbations. On a des papayers mâles partout. On a des citronniers qui ne donnent pas de fruits. On a ainsi de suite. Tout ça, c'est lié. Et ça, on a beaucoup de problèmes liés au climat. Et les études ne sont pas encore faites. Jusque-là, on étudie ça et cela. Mais il faut beaucoup de fonds de recherche pour s'attaquer à toutes ces questions et surtout former des médecins adaptés et vulgariser l'information pour que les gens boivent de l'eau quand il faut boire, se couvrent quand il faut se couvrir, parce que aucun média n'en parle quand on est en plein canicule. Les écoles qui étudient les après-midi doivent revoir leurs copies, leurs horaires, ainsi de suite. Moi, par exemple, je pense que même notre calendrier scolaire, copié sur le modèle européen, devrait se déplacer sur le modèle africain. Quand il ne pleut pas, quand il fait un peu frais, c'est à ce moment-là que les gens vont en vacances. Écoutez, pourquoi on va en vacances en Europe? C'est parce que ce sont des périodes les plus chaudes, caniculaires, où le cerveau n'est pas adapté à apprendre.
Juillet, août, c'est l'été.
Voilà.
C'est les repos.
Parce que leur été, c'est très chaud. C'est pour cela qu'ils vont en vacances. Et nous, on va en vacances...
Lorsqu'il fait frais.
Lorsqu'il fait beau, lorsqu'il ne pleut pas, lorsqu'il fait frais, on n'a rien compris.
Or, c'est la période adaptée à l'apprentissage.
Pour apprendre. J'ai dit ça à plusieurs ministres, ils ne comprennent pas. Et j'ai demandé des réformes de notre horaire pour que les gens soient en vacances pendant les périodes des inondations,
par exemple, les périodes de forte chaleur.
De forte chaleur, des canicules, pour atténuer les effets sur le cerveau. Donc, vous voyez, on est en train de copier l'Europe même sans nous référer à notre climat.
Professeur, on va aller au standard parce qu'il y a des auditeurs qui attendent, qui veulent également poser des questions.
Merci.
Avoir des orientations et des éclaircissements sur les sujets. Quelles sont les dispositions que la République démocratique du Congo doit prendre pour minimiser l'impact des effets liés au dérèglement climatique? Nous abordons ce thème dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service avec le professeur Albert Kabasele Yenga. Nous rappelons qu'il est le directeur de l'école doctorale de télécommunications et de télédétection spatiale de l'Université pédagogique nationale. Si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Deux auditeurs vont prendre la parole à partir de la ville de Kisangani. Nous sommes là dans la province de la Tchopo. Professeur, on commence par Monsieur Thomas. Monsieur Thomas, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour Monsieur Tati et bonjour à l'invité ainsi qu'au professeur ainsi qu'à tous les auditeurs de Radio Okapi. Je passe pour résoudre ce problème, monsieur Tati, on ne doit pas passer par les dos de la cuillère. Il faut qu'il y ait la sensibilisation et l'éducation, monsieur Tati. En tout cas, on doit mettre, il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation pour informer surtout à la population sur les changements climatiques et leurs effets. Pourtant, on doit informer, on doit sensibiliser la population sur ces problèmes-là lié au changement climatique et des actions que chacun doit prendre pour atténuer son impact. C'est-à-dire il faut qu'on puisse informer la population parce que la question de l'environnement, ça touche tout le monde. Et chacun doit faire à ce qui le concerne pour atténuer ce problème. Ça, c'est le premier mesure, la première mesure qu'on va prendre comme piste de solution, qui est la sensibilisation et l'éducation. Il y a également la protection de l'écosystème. L'invité a parlé ici de la conservation du forêt. Moi, j'ajouterais également, cela passe à travers également par la gestion durable de nos ressources. On a eu à faire des émissions précédemment par rapport à ça. La gestion durable de nos ressources. C'est-à-dire là, nous, on doit promouvoir en tout cas des pratiques là de gestion durable des ressources, que ce soit en eau, en sol, mais également en biodiversité, tout ça dans le but de renforcer en tout cas la résilience de l'écosystème. Il faut qu'il y ait également la gestion durable de nos ressources basées surtout sur l'écosystème. Mais quand cela ne tient, j'ai des questions à poser à l'invité. La première question, quelles sont en tout cas les principales vulnérabilités de la RDC face aux effets du changement climatique? Je ne sais pas si le professeur, par rapport à cette question, qu'est-ce qu'il pourra nous donner? C'est la première question. La deuxième question, comment la RDC peut-elle impliquer les communautés locales dans les efforts d'adaptation au changement climatique?
Parce que les pratiques ne sont pas bonnes sur le terrain.
Exactement. Quelles sont en tout cas que les autorités pourront en tout cas impliquer la communauté locale dans les efforts là de l'adaptation au changement climatique? La troisième question.
Allez-y, monsieur Thomas. Allô?
Vous m'attendez?
Oui, nous vous recevons 5 sur 5, allez-y.
Merci beaucoup. La troisième question est peut-être la dernière. Comment les politiques de développement économique en RDC prennent-elles à compte les enjeux climatiques? Moi, je suis beaucoup plus sur l'affaire des climats. Comment les politiques de développement économique en RDC prennent-elles à compte cet aspect lié aux enjeux climatiques? C'est ça mes trois petites préoccupations que j'avais à l'éviter, monsieur.
Merci beaucoup, monsieur Thomas, et excellente journée. Dans la ville de Kisangani, le prof va répondre à tes trois questions qui sont assez pertinentes. Excellente journée. On reste dans la même ville, cette fois-ci, pour donner la parole à monsieur Blaise Saïdi. Bonjour. Voilà, Blaise n'est plus en ligne, on va essayer de lui relancer. On revient à Kinshasa, professeur, cette fois-ci, pour donner la parole à monsieur Issa Malo, à qui nous disons bonjour. Monsieur Issa Malo, est-ce que vous êtes là?
Allô?
Oui, on vous écoute, monsieur Issa Malo. On vous écoute. Allez-y, bonjour.
Non. C'est Blaise.
Ah, c'est Blaise. Ok. Blaise, nous rappelons que c'est depuis la ville de Kisangani que vous avez pris la parole. On vous écoute.
Merci bien, cher Tati. Une fois de plus, bonjour. Bon, voilà, face aux effets climatiques croissants, des règlements climatiques, cher Tati, la RDC doit adopter une approche stratégique, intégrée et durable. Voilà, cher Tati. Je dois aller juste à quelques questions. Néanmoins, Thomas a récupéré vraiment quelques de mes questions. Voilà. La première question, cher Tati, comment la RDC peut-elle rendre son agriculture plus résiliente face au changement climatique? Voici la première question. La seconde question, quel rôle joue l'éducation et la sensibilisation à la lutte contre le changement climatique? Puisque, cher Tati, lorsque j'insiste ici à propos de l'éducation, avec les cours de la géographie, normalement, les enseignants doivent s'intéresser plus aux données des changements climatiques, aux changements climatiques. Voici encore une question qui. Allô?
Oui, on vous reçoit 5 sur 5, allô? Allez-y. Nous vous écoutons.
Voilà. Ok. Cher Tati, j'avais une question encore. Et non, lorsque le gouvernement congolais peut suivre les sensibilités financement pour soutenir les actions climatiques. Mais au regard de cette question, je ne pose même plus de question, puisque quelque part, l'invité avait dit que non, aucun gouvernement
ne pourra faire face, oui. National, oui.
Oui, de faire face. Maintenant, ce sera comment, puisque aucun gouvernement n'aura pas la possibilité de faire face au changement climatique à ce niveau-là. Mmh. Et l'invité continue encore à nous donner quelques explications, puisque au niveau de ces moyens budgétaires, qu'on peut avoir quand même un moyen pour atténuer la question des changements climatiques. Voilà. Je veux dire que non, mon prédécesseur m'avait précédé avec quelques questions. Mmh. Nous ne pouvons plus y revenir, sinon c'est pour continuer à faire la rhétorique. Merci, cher Saïdi.
Merci beaucoup, cher Saïdi. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kisangani, dans la Tchopo, que vous avez pris la parole. Cette fois-ci, on part à Bukavu, professeur. On va donner la parole à M. Eminent, à qui nous disons bonjour.
Bonjour, M. Tati.
Nous vous écoutons.
Oui, nous savons très bien que le problème que nous connaissons actuellement est très complexe. Quand on voit la manière dont les choses sont en train de se faire sur ce plan là-bas, du précédent auditeur, monsieur Tati, c'est trop aberrant. Surtout nous qui sommes ici dans des zones occupées. Je sais pas si réellement l'État congolais est en train de penser aux gens qui sont à Bukavu aussi.
Merci beaucoup. Nous savons qu'à Bukavu, c'est beaucoup plus les éboulements des terrains et autres. Excellente journée, Monsieur Eminent. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bukavu, dans les Sud Kivu, que vous avez pris la parole. Professeur, comment répondez-vous à nos auditeurs? On commence par le tout premier, Thomas, qui a appelé de Kisangani. En quoi est-ce que la République démocratique du Congo est vulnérable aux effets du dérèglement climatique? C'est sa première question.
Oui, merci à Monsieur Thomas de Kisangani. Tchopo, une ville que j'aime beaucoup. La RDC, c'est un pays solution, mais un éléphant fragile face aux représailles du climat. D'abord, à cause de sa très forte pluviométrie. Je vous ai dit qu'en RDC, de Kisangani jusqu'à Kinshasa, on n'a pas moins de 2000 tonnes d'eau par hectare par an. Il y a même des mois qui atteignent, un seul mois peut atteindre 400 tonnes d'eau par hectare dans un mois. Comme le mois de novembre, par exemple, à Kinshasa, on dépasse même 400 tonnes d'eau. 300 tonnes d'eau par hectare dans un mois. Et par an, on peut aller à 2200 minima ou moyenne 2000 millimètres, 2000 tonnes d'eau par hectare par an.
Et les débordements de ces eaux ne sont pas rationnellement gérés dans les zones
urbaines. Et voilà. Donc, avec une pareille pluviométrie locale, on est déjà vulnérable. L'eau n'est pas seulement une bénédiction. On cherche l'eau au Tchad, mais chez nous, ça peut être une malédiction. Parce que vous avez beaucoup d'eau. Et cette vulnérabilité se constate dans la réduction des nombres de jours de pluie. Donc le nombre de jours de pluie diminue. Et quand il pleut très abondamment. On appelle ça l'intensité. C'est déjà une vulnérabilité. Et cette vulnérabilité fait que il y a éclosion des inondations et
avec des conséquences comme les cas de choléra, des maladies.
Il y a des vecteurs des mouches qui pullulent partout, ainsi de suite. La malaria explose et il y a des maladies diarrhéiques, il y a des maladies de la peau. Parce que cette eau n'est pas de bonne qualité, c'est une eau boueuse, la population se lave, comme elle n'a pas accès à l'eau potable, et voilà la vulnérabilité. Ça, d'abord, du point de vue
pluviométrie.
Du point de vue température. La RDC a des températures caniculaires de l'équateur, Tchopo, jusqu'ici à Kinshasa. Pendant les mois les plus pluvieux, là.
Il fait très chaud. Excessivement chaud.
C'est ce qui fait cette température-là
provoque une grande évapotranspiration forestière et des eaux libres. C'est pour cela qu'il y a une grande évaporation des eaux, des grandes condensations sous forme de nuages cumulonimbus qui précipitent des grandes quantités d'eau. Donc, qui parle de la des canicules parle déjà de chaleur, et ces chaleurs sont la cause de grandes vulnérabilités. Je viens de vous parler des AVC. On constate qu'il y a beaucoup d'AVC au mois de novembre, décembre, et on dit oh, Ezafin Yambula, Satana Tomboki. Dans les églises, Satana Longwa, Moto, Totindeliyo Moto. Ce sont des canicules. Moto Wana Ezoluka. Ce sont des canicules qui ont provoqué ces AVC. Il y a trop de morts subites et la population n'est pas informée. C'est une vulnérabilité. Il y a le rendement dans le travail. Aucun cerveau humain n'est habitué à travailler dans la chaleur pour un bon rendement. C'est une vulnérabilité. Donc le quotient intellectuel baisse. Le rendement intellectuel baisse, on transpire. D'autant plus qu'on est trop pauvre sans climatisation, ainsi de suite. On a des bureaux et des salons
mal aérés, il fait chaud.
Voilà. On n'a pas des arbres sur la route pour s'abriter. On marche sous le soleil, ainsi de suite. Quand vous portez les chapeaux, vous étouffez davantage, ainsi de suite. Voilà, ce sont des vulnérabilités. Et il y a ce qu'on appelle... les travaux publics, les routes sont coupées pendant ces temps de pluie là, j'avais oublié, et il y a coupure de route et l'État n'a pas assez de moyens pour faire face à ces inconnus non prévus. C'est une vulnérabilité. Il y a les fissures dans les bâtiments, les maisons se dilatent à cause des chaleurs et aujourd'hui vous allez voir. Et c'est comme s'il y a eu un séisme passé par là. La plupart des maisons à Kinshasa, même en étage, ont des fissures.
Et des immeubles s'écroulent partout.
Oui. On commence à attaquer l'architecte. Non. Et c'est parce que les architectes aussi ne sont pas très bien informés. Il y a beaucoup de fissures dans le bâtiment. C'est dû à la dilatation. Et aussi là, il faut étudier quel type de béton, quel type de...
Des matériaux utilisés.
Quand on vous parle de barre de 16 à Kinshasa, c'est une barre de 12 ailleurs ou de 14. Quand on dit barre de 16 en Europe, c'est une barre de 16.
Oui.
Donc tout
c'est
ça,
réellement une barre de 16.
Voilà, il faut contrôler. Et quelle est la pureté de ces, de l'homogénéité donc dans le bâtiment, ainsi de suite. Et il y a là une vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est à plusieurs niveaux. Et déjà, vous comprenez que tout ce que je donne comme liste,
c'est assez long.
Je suis allé jusqu'à vous dire des choses qui fâchent.
Oui. Deuxième question, il a voulu savoir comment est-ce qu'on peut préparer les communautés locales à s'adapter à ces effets du dérèglement climatique.
Ah oui.
Parce que la population, elle, les communautés, elles subissent ces réalités.
Il faut d'abord un grand travail dans le monde scientifique. Le monde scientifique doit devoir observer, écrire et publier tous ces phénomènes pour les mettre, pour sensibiliser notre population. Donc, on a une communauté scientifique qui écrit beaucoup, mais qui écrit des choses et qui ne sont pas très
vulgarisés
pour leur population. Je vous dis la vérité. Il y a des artistes qui chantent beaucoup, mais qui ne chantent pas des réalités locales. Il y a des programmes scolaires très bien faits, mais des programmes scolaires qui n'étudient pas l'environnement
immédiat. L'auditeur qui c'est Saïdi, il a parlé du coup de géographie.
Donc,
on doit intégrer toutes ces notions-là.
Ces notions. Il y a les médias, les radio-télévisions, je félicite beaucoup Radio Okapi, mais et sur RTNC, sur Télé 50, sur, je ne les accuse pas, c'est à peine
qu'on aborde des sujets,
aborde des questions
liées à l'environnement,
liées à l'environnement, au climat, ainsi de suite, à la perte en biodiversité, ainsi de suite, hein, aux perturbateurs endocriniens, même le médecin, c'est comme si pour eux toutes les maladies c'est lié aux microbes, ils s'arrêtent là, mais ils savent pas que ces microbes peuvent être boostés par le climat. Ces virus et ces bactéries sont boostés par le climat. Ils ne les disent pas. Et ils sont là. Ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience d'abord au niveau des intellectuels, au niveau des médias, des universités, des chercheurs, des artistes. Il faut que tout le monde prenne cette question à bras le corps.
Troisième question, la responsabilité de l'État face au dérèglement climatique.
La responsabilité de l'État, elle est énorme. Elle est énorme parce que il faut savoir, aujourd'hui, M. Trump a coupé le financement aux chercheurs de la NASA. Et les prévisions ont été médiocres. Il est en train d'enterrer un État le plus développé du monde. N'a pas pu venir les inondations qui ont endeuillé les États-Unis
récemment
à plus de 100 morts. Et les voix s'élèvent, il est critiqué. Ça vous montre combien sont les responsabilités de l'État face à la gestion de l'environnement. Je viens de dire ici qu'aucun État du monde ne peut en faire face. Ça veut dire pour stopper. Aucun État ne pourra stopper le réchauffement et les représailles. Il faut seulement les observer, les prévenir et s'adapter.
Et pour prévenir, il faut anticiper.
Il faut anticiper. Et puis ça coûte
avec
très
des mesures.
Cher. Par exemple, quand vous regardez le dégât provoqué par les inondations aux États-Unis, ça demande des milliards et des milliards de dollars. Donc, en France, ainsi de suite. Et notre budget, nous, Congolais, est de 15 milliards, moins de 20 milliards de dollars. Mais une seule catastrophe climatique peut déjà vous coûter 100 milliards de dollars.
Plus de 20 milliards.
Où est-ce que vous les aurez? Vous allez arrêter tout le financement de la guerre, la paye de la fonction publique pour financer les représailles du climat? C'est à ce niveau-là que je suis. Je ne dis pas que aucun État ne peut y faire face. Non, il faut y faire face, il faut prévenir.
Pour minimiser l'impact.
Voilà, atténuer les impacts. Et sinon, vous ne saurez pas vous adapter.
Avant d'aborder la question de Saïdi, on va aller à Kananga cette fois-ci, professeur. Oui. Il y a un auditeur, il s'appelle Gentil. Monsieur Gentil, bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Oui, bonjour Monsieur Tati, bonjour aussi à tout le monde qui me suit à ce moment et bonjour aussi à Monsieur l'invité.
Nous vous écoutons.
Me suivez?
Oui, 5 sur 5, allez-y.
Oui, oui. Je voudrais seulement donner des suggestions par rapport au sujet du jour. La République démocratique du Congo est riche en forêts tropicales et en ressources naturelles. Doit adopter des dispositions stratégiques pour faire face au dérèglement climatique. Oui, oui. Un, renforcer la gouvernance environnementale, mettre en œuvre et faire respecter les lois sur la protection de l'environnement, lutter contre la corruption dans la gestion des ressources naturelles. Deux, protéger et restaurer les forêts, lutter contre la lutte contre la déforestation illégale, promouvoir la forestation et l'agroforesterie. Trois, investir les énergies renouvelables. Bon, je voudrais encore poser des questions par rapport à ça, puisque j'ai beaucoup de suggestions, mais cela va me prendre aussi le temps. Je voudrais seulement poser presque 8 questions à l'invité.
8 questions, c'est beaucoup, s'il vous plaît. Monsieur Gentil, s'il vous plaît, paraphrase tes questions, s'il vous plaît. 8 questions, c'est beaucoup. Je vous accorde 2 questions. Parmi les 8, les plus importantes, posez 2 questions. Allez-y.
Bon, sinon, bon, je dois dire tout de, bon, je dois parler tout plus vite là vraiment pour comprendre quand même.
Allez-y.
Ouais, ouais. Première question, c'est pourquoi la RDC, bien que riche et ressources, bien que riche en ressources naturelles, est-elle vulnérable aux effets du changement climatique? Oui, oui. Comment la population locale peut-elle être impliquée efficacement dans la lutte contre les dérèglements climatiques? Troisième question. Quel est le rôle de la forêt du bassin du Congo dans la régulation du climat mondial? Quatre. Quelles sont les conséquences actuelles du dérèglement climatique observé en RDC? Cinq. Que fait le gouvernement congolais aujourd'hui pour respecter ses engagements climatiques internationaux? 6. Quels sont les obstacles qui empêchent la RDC d'adopter des politiques climatiques efficaces? 7. Quels partenariats internationaux peuvent aider la RDC à renforcer sa résilience climatique? 8. Quel est l'impact de l'exploitation minière artisanale sur l'environnement et le climat en République démocratique du Congo? C'est ça mes 8 questions que je voulais seulement poser aussi à l'invité.
Des questions assez pertinentes. Le prof va ramasser tous ces aspects en quelques minutes parce que les temps s'égrènent vite. Hein. Il nous reste que 10 minutes. Bon, je pense qu'il va épuiser parce que tes questions se recoupent à celles des auditeurs qui ont parlé précédemment. Excellente journée au niveau du Kasaï. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Karanga que vous intervenez. À vous la parole, professeur.
Je voulais ne pas oublier M. Saïdi de Kisangani qui a posé une question capitale sur l'impact du réchauffement climatique sur l'agriculture durable. Et quelle agriculture il nous faut aujourd'hui? Ah, ça c'est une question
capitale. Assez pertinente, très importante.
Et je félicite Saïdi. Je vous dis que nous devons, nous, Congolais, oublier de survivre avec l'agriculture pluviale. L'agriculture pluviale ne pourra pas nous faire accéder à ce qu'on appelle la
sécurité alimentaire.
La sécurité alimentaire. Parce que quand on a beaucoup d'eau, ça attaque.
Ça abîme également les cultures, oui.
Quand on a des canicules,
ça brûle les cultures.
Alors, l'agriculture a besoin du juste milieu.
De la constance, oui.
Or, le réchauffement climatique exacerbe des phénomènes marginaux extrêmes. Donc, l'agriculture pluviale, naturelle, ne marchera plus. Il faut aujourd'hui une agriculture intelligente, une agriculture programmée,
adaptée aléas du climat.
Aux aléas du climat. Il faut faire des études de télédétection, zone par zone, étudier les sols et savoir quand arroser et quand ne pas arroser. Savoir quelles plantes couvrir dans les serres, quelles plantes cultiver à l'air libre, ainsi de suite. Il faut privilégier maintenant en RDC l'irrigation. Les Congolais travaillent avec les eaux de pluie naturellement, mais ils doivent les retenir dans des bacs de décantation et les utiliser au moment venu.
Et les saisons ne sont plus stables, professeur.
Et les saisons ne sont plus... Donc, et on peut lire mon livre sur PAD, Politique Agricole Durable, que j'ai publié avec Fonared, Banque Mondiale. Et mon livre en parle en long et large. Quand j'ai dit aucun gouvernement ne pourra faire face, c'est parce que les conséquences du climat exigent beaucoup de fonds pour les réparer. Quand ça vous coupe des routes, ça vous abîme toutes les routes de Congo central jusqu'à Kinshasa. Ce qui n'avait pas été prévu. Alors que ces routes venaient d'être construites. Donc, il faut beaucoup d'argent. Et je pense que même les Américains, face aux catastrophes naturelles, ils sont
frappés de plein fouet.
Et sont sans moyens pour surmonter. Et nous, qui sommes un pays pauvre, l'éducation et la sensibilisation, d'après Saïdi, oui, mais aujourd'hui, si vous voulez cacher la vérité à un Congolais, mettez-la dans un livre. Au lieu de chercher des coffres forts,
prenez 100 dollars, mettez dans un livre, laissez ça sur la table. Ces 100 dollars sont protégés. Personne ne les volera. Parce que personne n'ouvrira les livres.
Les livres. Mmh.
Donc, aujourd'hui, les Congolais ne lisent pas. C'est pour cela que j'ai parlé de la sensibilisation par les musiciens.
Les médias, les musiciens, les comédiens.
Enfin, les comédiens. Mmh. C'est là que le gouvernement doit s'investir parce que les Congolais ne lisent pas. Et bon. Monsieur qui parle toujours à Kisangani, Thomas, des populations autochtones pour s'adapter. Oui, toujours par la sensibilisation. Et on doit former, faire des renforcements des capacités. Et l'État doit investir, le ministère de l'Environnement. Mais là...
Et développer également des alternatives pour ces communautés.
Des alternatives aujourd'hui parmi lesquelles, je cite, la police environnementale. Il faut créer une police environnementale en RDC, sans attendre. Cette police qui doit être préparée à répondre le jour des déluges, des inondations.
Parce qu'il y en aura, il y en aura.
Oui, et cette police doit avoir des hélicoptères. Il faut les prévoir, province par province. On doit avoir des petits bateaux ou des bacs pour transporter
aller secourir les voilà. victimes, les sinistrés.
Il faut des gens bien préparés, comme on les voit en Europe, pour pouvoir exfiltrer par les toits les gens qui sont dans une maison et ils sont montés déjà sur la toiture. Ils attendent le secours. Qui ira les sauver? Ainsi de suite.
Les sauveteurs, ils doivent être formés.
Il faut des analyses, des images satellitaires. Mm. Donc c'est pour cela qu'il faut créer en RDC
une brigade,
une agence aérospatiale aussi, comme la NASA. Il faut l'avoir. Il faut doter le pays de satellites. Tout ça, je l'ai déjà dit.
Mais la Metelsat, c'est pas l'équivalent de la NASA.
Exactement la Metelsat. Mais la Metelsat dans ses aspects actuels, sans satellite, ou alors être hébergé sur un satellite étranger. Si on n'a pas de moyens d'avoir les satellites, on peut être hébergé. Moi, par exemple, l'école doctorale ETS-UPEN de télédétection, nous sommes hébergés sur certaines données de la NASA, ainsi de suite.
C'est la République peut mobiliser les moyens pour que nous ayons notre satellite
Exactement.
De télédétection.
J'en ai parlé plusieurs fois. Avec minimum 10 millions de dollars, on peut avoir un satellite le plus simple. Mais si vous voulez avoir du sophistiqué, il faut avoir 100 millions de dollars. Et il faut une agence aérospatiale. En RDC, on a démietté les centres de recherche. On a Metelsat, on a CERGEM, on a IGC, on a CERGE, on a INERA, on a... Non, il faut tout rassembler dans une seule agence, l'agence aérospatiale.
Et pour un travail multidisciplinaire et complémentaire.
Et mettre ça...
À jour avec des équipements d'appoint.
À la disposition directe du chef de l'État. La NASA dépend de Trump. C'est le pouvoir suprême. Il ne faut pas laisser ça. Le ministre de l'Agriculture qui combat les ministres des Mines. Les ministres des Mines qui combat les ministres. Quand les mines ont pollué l'eau, les ministres des hydrocarbures et ressources hydrauliques attaquent les ministres de ainsi de suite. Donc on sent que la gestion,
il y a un problème de coordination à la gestion.
C'est pour cela on met une pareille agence à la présidence pour la coordination et on donne des instructions à l'exécutif. Et voilà. Et pour monsieur Gentil de Kananga,
Bon, faut ramasser ces 8 questions en 2 minutes parce que là, on est déjà à la fin.
La RDC est vulnérable malgré tout, toutes ses richesses. Oui, mais qui vous a dit qu'un éléphant ne peut pas tomber malade? La RDC est vulnérable parce que cette forêt exige beaucoup de ressources en eau, beaucoup de pluviométrie et tout excès nuit. Comme il y a beaucoup d'eau, ça crée des inondations.
C'est et normal. Voilà.
Donc, on ne dit pas que parce que la RDC est un pays solution, il ne peut pas être vulnérable. Non, la richesse crée la vulnérabilité. L'implication de la population locale. La population locale doit être préparée, enseignée.
Sensibilisée.
Voilà. Il ne faut pas tout mettre sur le dos des démons et des ancêtres qui se sont fâchés. Il faut être informé. La forêt du bassin du Congo dans le réchauffement mondial. Oui, nous n'avons pas seulement la forêt, nous avons aussi la tourbière. Quand on prend et la forêt et la tourbière, le Congo est un géant. qui stabilise le climat mondial. Les études disent que si toute la forêt de la RDC est détruite, le climat mondial grimpera de 4 degrés en moins de 10 ans. Voilà pourquoi le monde s'acharne pour que le
préserve
sa forêt. Et le climat de la RDC, est un climat aujourd'hui vulnérable parce qu'il s'est réchauffé en milieu urbain de 1,5 à 1,7 degrés de plus, et en milieu ruraux, il s'est réchauffé de plus ou moins 1 degré. Et là où il y a les coupes forestières, le climat monte plus vite, et à cause du sol nu et de l'effet de l'albédo. Et la RDC doit respecter les engagements climatiques. Non, la RDC a besoin de fonds. C'est un pays vulnérable qui n'a pas encore pollué. Donc, suite au principe des Nations Unies des responsabilités communes et différenciées, la RDC attend les fonds des G7 et des G8.
Professeur, en conclusion, parce que là, on a consommé le temps, on est parti au rendez-vous.
Ouais.
En conclusion, que devons-nous retenir par rapport à ces sujets, en une minute?
En une minute, le pouvoir en place doit pouvoir voter un budget spécial et déclarer la RDC pays climatique vulnérable, exposé aux catastrophes naturelles.
Merci beaucoup.
Un budget spécial.
Et créer l'agence spécialisée pour les questions de l'environnement.
Une agence aérospatiale, doter le pays du satellite et financer la recherche de nous les scientifiques.
Merci beaucoup professeur Albert Kabasele Ngayenga. Nous rappelons que vous êtes directeur de l'école doctorale de télécommunication et télédétection spatiale de l'Université pédagogique nationale. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous. Chers auditeurs et auditrices, c'est par ici que nous clôturons également le magazine Okapi Service que j'ai eu l'immense plaisir de vous le présenter sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Debs Vita a été à la prise des sons et Paul Badianyama a été à l'édition multimédia. Excellente journée. À la prochaine occasion. Merci beaucoup.